On est quand même là pour parler donc de ce qui nous a chagriné dans ce previews de janvier. Et voilà, on va revenir tous les deux sur ce qu'on a vu, aimé, pas aimé. Enfin, on va vous parler de tout ça. On commence, tiens, je vais te laisser commencer pour une fois. Qu'est-ce qui t'a chagriné, mon biquet?
Je suis pas content du tout.
T'es pas content du tout?
Je suis pas content.
Ah bon, ouais, explique à papa pourquoi.
On va commencer par Batman et Robin. Alors, pendant ce prévu du mois de janvier, c'est le numéro 19. Donc, troisième partie d'un arc. Mais sauf que, entre-temps, on nous a quand même annoncé que c'était la troisième partie d'un arc
filé. Qui
n'était pas prévu. Alors, à la base, on devait avoir Peter Tomasi et Patrick Gleason, donc les deux auteurs de Green Lantern Corps, arrivés sur ce titre avec un arc en 3 à partir du numéro 17, donc. Et donc, le numéro 19 devait être la troisième et dernière partie de leur premier arc, Dark Knight, White Knight. Donc, très attendu, puisque ce sont des auteurs qui ont acquis une petite réputation sur Green Lantern Corps. Et donc, à la place, entre-temps, on nous a, après qu'on ait commandé, bien sûr, les épisodes, on nous a annoncé que, finalement, ça serait plutôt Paul Cornell et Scott McDaniel qui seraient les signataires des épisodes 17 à 19.
Alors, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Personnellement, j'aime beaucoup Paul Cornell. Scott McDaniel est un dessinateur que j'apprécie quand même.
Je pense que tu vas quand même vomir quand tu vas voir les...
en même temps, il a dû...
perdu.
Et puis, il a dû avoir à les faire très très vite quand même. Parce que
C'est pour ça qu'il a été choisi.
Ils les ont annoncés très très rapidement. Donc, je pense que effectivement, il a un peu cette qualité qu'a Ron Lim chez Marvel de savoir bâcler rapidement sans que ça se voit trop. Sauf que quand même, quand on connaît le talent du type, on voit quand il fignole ou quand il fignole pas.
Oui, et là je pense qu'on va voir qu'il a pas fignolé du tout.
Voilà.
Les premières planches sont tombées et...
J'ai pas encore eu le temps de regarder les premières planches.
Ouais, il y en a deux, trois qui sont tombées. Donc
après, c'est aussi un mec qui a des constitutions de planches qui parfois peuvent être très intéressantes. Et là, on risque d'avoir des constitutions très plan-plan.
C'est même pas ça, surtout que c'est un mec qui se copie en permanence. C'est toujours les mêmes positions, toujours les mêmes façons de raconter l'histoire. Donc, il y a des automatismes, et donc c'est pour ça qu'il va vite aussi. Mais c'est vrai que à la longue, ça devient très lourd et peu intéressant. Mais ça dit, je suis d'accord, Paul Cornell est un scénariste intéressant aussi. Mais c'est vraiment plutôt le côté... Il nous avait fait le coup aussi chez la concurrence avec Thor en nous balançant un arc de remplacement avant l'arrivée de Matt Fraction et Pascal.
Et tu peux le dire, si tu es énervé après DC, c'est juste parce que tu t'es fait avoir de la part de Marvel.
Je suis énervé surtout de cette propension qu'ils ont à annoncer des auteurs alors que les auteurs n'ont même pas commencé à travailler. Et que surtout, les auteurs n'ont même pas fini leur projet précédent puisqu'en fait, on nous a dit que finalement, sinon, si Tomasi et Gleason ne sont pas là, c'est qu'ils terminent Brightest Day. Mais fallait peut-être le prévoir.
C'est vrai qu'on se doutait un peu quand même que ça allait être chaud d'avoir les deux en parallèle. On s'est dit à un moment, ils ont peut-être beaucoup d'avance, et finalement, non.
Non, voilà, donc c'est un peu le côté, effectivement, de cette faire voir. C'est vrai que Paul Cornell, je suis plutôt j'y vais pas reculons pour lire ce qu'il écrit. Scott McDaniel, un peu plus. Mais c'est vraiment le principe duquel on s'est fait enfler quand même de trois épisodes qu'on n'avait pas forcément à la base envie de lire.
Ouais, après, enfin. Moi, honnêtement.
Oui, au numéro 20, ils arriveront, normalement.
On m'aurait annoncé un arc fill-in par le Colonel, je l'aurais pris. Donc voilà, il y a des gens qui vont se faire avoir, d'autres qui vont se dire putain, pourquoi je les ai pas, ceux-là. Après, effectivement, c'est la méthode qui est un peu cavalière, le fait qu'on nous l'ait dit au dernier moment. Et surtout que ils ont déjà vendu les deux premiers avec des quantités qui ont été déterminées en fonction des auteurs de l'arc suivant. En même temps, ça avait permis aussi à Marvel de très bien vendre son arc fill-in avant l'arrivée de Ferry.
Exactement.
Voilà, donc ça, effectivement, c'est une procédure...
La combine est peu engageante et peu louable.
Ouais. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut énerver. Moi, j'ai 5 choses qui m'énervent chez DC.
Oula.
Et en fait, c'est 5 fois la même. Et c'est 5 fois pendant le previews, justement.
Beaucoup des infos dans ce previews, finalement.
Parce que on nous a fait des superbes couvertures, mais on a oublié de nous dire, effectivement, que Il y avait quand même toutes ces histoires de compléments dans les titres. Et il y a donc 5 titres qui ont perdu leurs histoires de compléments ce mois-ci. Et on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, ce qu'ils ont prévu d'en faire. Et ça, ça commence à me chagriner un peu. J'aimerais bien quand même, au bout d'un moment, qu'on me dise, eh ben voilà, on va en faire ça, parce qu'on nous promet des tas de choses. Mais pour l'instant, personne ne sait exactement.
Autant ils se précipitent pour annoncer les auteurs hype sur les séries, autant pour réparer leurs décisions éditoriales un peu hâtives, il y a moins de monde là.
Ouais, alors, bon, il y a différentes. Il y a 5 titres, il y a en fait 7 titres qui repassent de 3,99 à 2,99, mais sur Justice League of America et sur le deuxième, c'est Legend of Super Heroes, c'est en fait un retour à 20 pages au lieu de 40.
Voilà, oui.
Donc sur ces deux titres-là, à part effectivement que ça risque de nous faire des scénarios un peu bâtards au moment où ils vont devoir recompiler, bien que avec un scénario de Robinson, même si on avait dit à Bagley qu'il avait que 10 pages pour faire l'épisode, je crois qu'il aurait réussi à tout mettre.
Hein ? Non, faut pas dire ça.
Mais si on peut.
Il y a beaucoup de splash pages et de double pages, que le scénario est tout léger.
Il est un peu vite quand même.
Il se passe pas grand chose. C'est bien écrit, c'est bien foutu, mais il se passe pas grand chose.
Voilà, donc c'est du Bagley pour ceux qui aiment ça, et c'est du vide pour ceux qui aimaient Robinson. Donc voilà, donc ça, ces deux titres-là, ça ne me pose pas trop de problème. Sur Batman Street of Gotham, on avait effectivement une histoire de Ragman. Donc dans cette série. Alors. Bon, peut-être que l'histoire était sur le point de se terminer, on sait même pas en fait. C'est un peu le problème parce que sur les Coffee Tunes, ils nous disent jamais si c'est censé continuer, s'arrêter, combien de parties il y a. En général, c'est quand même assez long. Donc on peut se dire que là-dessus, bon, sur Street of Gotham, c'est mort, on va pas voir exactement comment ils vont s'en sortir. Sur. Donc là, c'était Fabian Nicieza et Zman Kudransky qui nous faisait cette couverture sur Hackman, donc personnage mystique dont on voyait pas trop au départ pourquoi l'avoir mis là, sinon effectivement pour ramener Hackman à Gotham dans le vue d'une mini-série, mais pourquoi pas. Sur Détective, on en a, c'est encore pire.
Oui, ça on peut le dire.
Parce que sur Détective, il y avait un arc d'un an avec deux histoires, une de Batman de 20 pages, une de Gordon de 10 pages, qui racontait la même chose et qui se faisait écho, et ça devait se conclure au final. On nous a vaguement dit qu'on essaierait de faire quelque chose pour les replacer ailleurs, ce qui perd tout intérêt parce que leur place était vraiment dans Detective Comics.
Effectivement, c'était de voir l'histoire en parallèle, oui.
Voilà, bah c'est vrai que quand on fait une histoire double, on met les deux parties d'histoire. Et donc là, personne ne sait rien, on sait pas où ils veulent en venir. On a ensuite Action Comics, où on avait une backup sur Jimmy Olsen, donc on a eu 3 numéros. Ça s'arrête, on nous a dit qu'on nous ferait sûrement un spécial. Alors là, pour DC qui a voulu lancer Nick Spencer en grande pompe, bon, tout le monde a essayé de capitaliser sur le nom du scénariste ces derniers mois, parce qu'il n'a pas de contrat d'exclusivité, il est chez Marvel, il est chez Image, il est chez DC. Ce qui est quand même très rare, parce que je ne me rappelle pas avoir eu 4 dessinateurs qui bossent pour les 3 en même temps.
Là comme ça, non, effectivement, mais ça peut... Ça,
voilà,
ça,
donc même en scénariste, c'est quand même assez rare. Donc Spencer, c'est évidemment Morning Glories chez Image.
On a eu Vogel, je crois, dans ce cas-là, qui était un peu partout pendant un moment.
Ah, je crois qu'il a arrêté l'un pour faire l'autre. Voilà. Ben, lui, voilà, il a son histoire. Enfin, ça part plutôt bien, a priori. On nous ramène Jimmy Olsen dans cette histoire. On rencontre son ex, une certaine Chloé Sullivan.
Tiens, ce nom me dit quelque chose.
Ah, c'est la deuxième fois qu'on nous présente Chloé Sullivan, d'ailleurs. Oui. Première fois, on ne sait pas pourquoi ils ont oublié qu'ils l'avaient présenté. Voilà, Action Comics, c'est le que futur, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Il est probable que ça ne fasse qu'un one-shot, parce que, de toute façon, le scénariste est très occupé. Sur Adventure Comics, c'est un peu différent parce que c'est Jeff Lemire qui fait cette couverture qui est dessinée par Mahmoud Asrar et ancrée par John Bell. Là, lui, il se rebelle un peu parce que dans Adventure Comics, donc Jeff Lemire avait une histoire en cours sur Atom qui était liée d'ailleurs à Whitest Day. il a quitté, l'Atome a quitté Brightest Day justement pour se retrouver dans l'Adventure Comics. Et tout d'un coup, on commence à entendre Jeff Lemire nous dire derrière, ouais, mais alors le problème, c'est que moi, je veux une série, je veux pas tout bâcler dans un one shot. Donc évidemment, il espérait beaucoup du personnage d'Atome. Le voilà qui réclame carrément une série, ce qui est assez audacieux de sa part, hein, parce que
en même temps, il aurait tort de pas essayer.
Il aurait tort de pas essayer. En même temps, faut reconnaître les choses. Il fait deux séries, ça et Sweet Toast chez Vertigo. Série assez bizarre, voire carrément surréaliste, sur un espèce de d'ado avec des cornes de renne. Voilà, donc mi-humain, mi-animal, enfin, humain mais avec des cornes. Et voilà, en fait, c'est assez surréaliste. Et bon, au niveau vente, on va le dire, c'est assez bas.
Mais on n'attendait pas du coup sur un titre comme Superboy par exemple, ou sur les backups de ce jour-là.
Voilà, donc là du coup, il a Superboy effectivement qui lance un parallèle, mais il voudrait bien une série Atom en complément. Je pense qu'il va avoir un peu le mal à la récupérer.
Atom est un héros qui a jamais trop vendu, donc c'est clair que il va avoir du mal à négocier l'affaire.
Ensuite, on a deux autres séries, c'est Doc Savage et The Spirit. On va faire un complet parce que ce sont deux séries issues du crossover First Wave. Alors, sur Doc Savage, on avait une histoire sur Justice Inc., une série qui était disparue depuis 30 ans pratiquement chez DC. Et là, on avait effectivement le retour de ces personnages. Bon, c'était une bonne idée au départ. Pourquoi l'avoir arrêté, on sait pas trop. On le regrette quand même un peu. Et puis, voilà. Bon, là, on est sûr qu'on les reverra pas. Déjà, on sait pas trop ce qui va arriver de Doc Savage et The Spirit, parce que c'est pas non plus des grosses ventes. Je pense que c'est des titres quand même que DC va soutenir. Sur le Spirit, c'est plus simple parce que ce sont que des histoires courtes, des one-shots du Spirit Black and White. Là, le dernier numéro, le 9, c'était quand même Paul Dini et Mike Plug au dessin. Donc, que des grands noms sur ces histoires courtes du Spirit. C'est dommage parce que moi je trouve que c'était une idée intéressante. En plus, c'est une idée qui plaisait beaucoup au départ. Quand même à Will Eisner, qui était créateur du Spirit. Rappelons qu'à l'époque, il avait pour son éditeur Dennis Kitchen, qui était éditeur sous le nom de Kitchen Sink, avait proposé une série qui s'appelait Spirit New Adventures.
Oui.
Où, eh bien, il avait le feu vert pour faire des histoires donc du vivant d'Eisner cette fois-ci, avec des grands noms de la bande dessinée. Et quand on propose à des grands noms d'écrire une histoire du Spirit ou de dessiner une histoire du Spirit, il y a peu de personnes qui peuvent réussir à attirer autant de monde, surtout chez un tout petit éditeur. Et donc c'est une des rares séries où on a quand même eu le plaisir de voir se côtoyer Alan Moore et Neil Gaiman au scénario.
Voilà, et une tripotée de bons dessinateurs, oui, c'est clair.
Ouais, une tripotée de très bons auteurs, donc la série n'a pas vécu très longtemps. Mais il y a eu des grands noms.
Il y a du bon et du lourd, ouais.
Voilà, on remettait ça avec des Black and White. Et là, bon, ça s'arrête. Voilà. Donc pour l'instant, on en est quand même à 6 titres. Et il n'y a rien eu d'annoncé encore. Ni dans ce previews, ni pour les suivants. On n'a même pas eu de bruit de couloir pour l'instant de ce qu'on va voir apparaître ou pas par la suite. Voilà, donc moi je trouve ça un peu dommage. S'il y avait vraiment des choses qui pouvaient avoir le intérêt à continuer, on aurait au moins pu finir les histoires quand elles étaient prévues, notamment sur un titre comme Detective Comics. Je trouve que oui, ça ne voilà, gênait absolument pas d'avoir un 32 pages.
C'est un truc
40 pages.
Ouais, un truc scandaleux du truc.
Ouais, c'est voilà. Donc bon, ça c'était un peu le coup de gueule contre DC. On sent bien qu'il y a une décision très politique. Il fallait tout arrêter. Il fallait tout arrêter, surtout avant que Marvel ait le temps de le faire. Donc bon, voilà, c'est un peu chagrinant.
Ouais.
On passe à une catégorie suivante.
Oui.
Je te laisse choisir.
Bon, on reste plus ou moins dans d'ici très vite en fait, juste pour dire que c'est le premier mois sans Wildstorm, donc Sniff. Voilà, il y a pas de Toity, il y a pas de Wildcats. Il n'y a pas de Gen 13, il n'y a pas de Deviate, il n'y a rien de tout ça.
Deviate était fini, ça y est, on avait le dernier numéro.
Oui, non, mais je veux dire, l'univers, l'univers western super-héroïque, ben, que Nib. Il y a juste un TPB de Authority de la CIA, je crois.
Ouais.
Donc voilà, donc bah, c'est juste pour dire, bah, triste quoi.
Voilà, pas bon. Cool. En même temps, il n'y avait plus que toi à lire les Heroic 4 Authority.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça d'ailleurs.
Voilà, non, mais bon.
C'est bien en plus, Heroic 4 et Authority, ce sont des. Bah, sur la fin, effectivement, c'est... ils allaient beaucoup plus loin parce que tout le monde s'en foutait, donc ils pouvaient. Ils faisaient des trucs sympas.
D'accord. Bon, bah écoute, tu me les prêteras, je te dirai ce que j'en pense.
Voilà.
En deuxième catégorie, on passe à Marvel par exemple.
Par exemple, oui.
Alors, qu'est-ce qui t'a chagriné chez Marvel?
Alors, bah, c'est un chagrin teinté de joie au final, puisque c'est la. On nous annonce X-Men Forever 2, le numéro 15, était le dernier épisode de la série.
Alors, c'est vraiment mesquin, parce que d'abord, on peut pas se réjouir de l'arrêt d'une série. Ensuite, parce que notre ami Stéphane a déjà eu du mal à encaisser l'arrêt de Spider-Girl, et que là, on lui arrête cette série. Bon, après, faut dire que c'est la deuxième fois qu'elle s'arrête et qu'on n'est pas sûr qu'on n'ait pas un volume 3 là, ce mois prochain.
Voilà, mais bon, faut être très honnête. Déjà qu'ils aient relancé la série, on n'a pas trop compris pourquoi.
Ah, ça n'avait aucun intérêt.
Ça n'avait aucun intérêt, ça n'avait pas été fait sur un événement particulier. Les auteurs n'ont même pas forcément changé sur le moment. Donc là, plus là maintenant, mais bon, c'était plus parce que bah, ça dégringole et c'est la fin. Donc, bah voilà, le pitch était intéressant, mais c'est vrai qu'au final, la série est devenue un gros n'importe quoi. Très honnêtement, pour avoir feuilleté les premiers numéros, ça m'est tombé des mains. C'est effectivement, enfin, je le répète, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Claremont était censé nous raconter ce qu'il avait prévu de faire après le fameux X-Men numéro 3, quand il a quitté le monde des mutants en 1991.
Mm-hmm.
Et on sait au final, on se retrouve avec un gloobie-boulga. L'idée plus ou moins arrivée après son départ par Scott Lobdell et Fabian Nicieza, deux trois trucs chopés aussi quand il était revenu durant les années 2000, aussi sur son run sur Extreme X-Men.
Même des trucs chopés dans X-Men, dans le crossover dans le futur, j'allais dire Age of X, mais non, c'est comment le précédent, le grand là, avec toutes les séries qui recommençaient. Astonishing X-Men et compagnie, Amazing X-Men et.
Ah,
et Jeff Apocalypse.
Voilà, exactement.
Voilà. Parce qu'effectivement, on a la Kitty Pryde avec une griffe qui était dans la série à l'époque Gambit and the Externals. Non, dans comment. Generation Next, pardon.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc.
Et ouais. Donc, oui, enfin, il est aussi qu'il avait déjà repris dans son tour des X-Men en 2000. Donc. Enfin, voilà, c'était. C'est une série inutile qui est. Qui était bien parti mais qui est devenu un truc voilà donc nul, donc c'est presque dans la dépresse, mais content parce que ça s'arrête, donc clairement on va peut-être pouvoir se remuer un peu pour essayer de faire autre chose, que parce qu'on sait qu'il est bon quoi, c'est dommage.
Il est bon mais il est pas très apprécié chez Marvel, donc c'est vrai qu'il a du mal à s'en sortir.
Voilà.
Bon, moi chez Marvel, ce qui m'a marqué, c'est Edge of X. Alors bon, j'allais dire effectivement on a rien dessus. Hier j'ai eu deux noms qui sont sortis d'un chapeau et aujourd'hui on en a de nouveaux, donc on commence à nous donner des informations au dernier moment. Alors on a effectivement maintenant 4 membres de Edge of X qui sont connus. On a évidemment les deux premiers qu'on nous a donnés hier, donc tu les as vus, Gambit,
oui.
Et Elian.
Voilà. Alors Gambit, bon bah, X-Men notoire et reconnu du groupe, qui était un peu, qui avait un peu disparu de la circulation, mais bon, qui revient sur le devant de la scène. Elion, qui était un élève de Emma Frost durant sa période de Club des Damnés, donc plus ou moins le groupe qui s'opposait, ouais, aux nouveaux mutants à l'époque.
Ah non, c'est
le.
Non, c'est pas Empat, c'est Elion. C'est celui de New X-Men.
D'accord, je confonds donc.
Tu confonds.
Je confonds. Bah, explique-moi alors.
Alors, Elian, donc, c'était un personnage donc, dans la série New X-Men, qui reprenait ce nom, effectivement, qui était le groupe des Aliens. D'ailleurs, il s'appelait Elian, il dirigeait l'équipe et qui s'appelait Aliens, donc qui étaient les nouveaux étudiants d'Emma Frost, quand ils ont recréé, effectivement, cette école. Alors là, on le voit, donc, c'est un télékinésiste. Alors qu'Empath avait un pouvoir
oui,
de persuasion.
Oui, j'ai donc confondu.
Là, il a une espèce de. Voilà, il a un bras en moins, donc visiblement, il a un bras. Une main, un gant métallique qu'il actionne par télékinésie pour compenser le fait qu'il lui manque un bras.
D'accord. Il lui est donc arrivé quelques bricoles.
Il semble lui être arrivé à quelques bricoles. Visiblement, il y a beaucoup de gens à qui il est arrivé des bricoles dans cette histoire. Donc, on avait déjà évidemment Gambit avec un costume gris qui porte un brassard, style ouais, brassard de Dai.
Qui fait très Solid Snake, le personnage des Metal Gear Solid, hein, quand même.
Ouais, c'est pas faux. Et puis là, on nous a créé deux nouveaux personnages dont on nous a dit qu'ils s'appelaient Berserker et Nightmare. Alors, voilà. Le fameux, celui qui doit être Berserker, ressemble à un espèce de Warpath. Enfin, on ne sait pas effectivement. Il a un tomahawk à la main, un oiseau rouge dessiné sur le torse.
Oula, dites donc.
Hein ? Alors, oui. Est-ce que ce serait Warpath qui aurait encore changé de nom ? Et puis, la dernière, je vais la garder pour la fin, parce que je pense que tu vas rebondir dessus avec ta dépresse à toi qui vient. C'est une espèce de femme avec des ailes de chauve-souris.
Ah, oui.
Un peu pouf vulgaire, mais rousse.
Ah, tiens donc.
Hein ?
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de rousse sur les X-Men.
Ah. Des poufs vulgaires.
Oui, ça,
un peu plus.
Il y en a pas manqué. Il y a Greg Land dessine la série, donc on a le quota.
Ouais, mais jamais aussi vulgaire que donc celle que tu nous as dénichée chez Image.
Ah, ça, oui. Alors, chez Image, donc, grand retour. Complètement inutile, on ne demandait rien, mais on nous l'a
fait. Ah, ça, on le demandait pas.
Comment ?
On le demandait pas, et Topco se l'est fait griller sous le nez, en plus. Ça devait sortir chez Topco, finalement, ça sort chez Image Centrale.
Oui, oui. Peut-être que c'est si mieux heureux, au final. Quoique, ça va dépendre. Alors, Darkchild, donc, retour, avec un trade paperback, Legacy of Redemption, qui recompile les deux premières mini-séries de Darkchild.
Donc, tout ce qu'on a vu en France.
Legacy et Redemption. C'est fou, comme tout se concorde.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme. Et donc, eh ben, Darkchild, c'est un personnage...
sans intérêt.
Voilà, une pouffe avec des ailes de chauve-souris, dites donc. Et créé par Randy Quinn. Alors Randy Quinn, c'est un mec qui a dessiné 2-3 backups chez Topco durant les années 90, qui s'est pris pour une star et qui a fait son créateur own. Personne ne lui a dit non, c'est pas ça. Il y en a même des gens qui l'ont publié, c'est ça le pire, je pense. Et donc, il a fait son petit truc avec une pouffe sans intérêt, effectivement, qui découvre des pouvoirs. J'ai jamais trop su ce qu'ils ont leur tourné.
Ah, alors voilà,
tombé des mains. Donc,
elle nous expliquait que c'était une petite fille timide, mais elle s'habillait.
Voilà, oui.
Faut voir comme, hein, quand même.
Voilà.
Et voilà, et puis bon, elle était...
Avec des gnagnons à n'en plus finir, un journal intime où je suis triste, je suis toute seule.
C'était cucu.
J'ai compris, mais tiens, j'ai des pouvoirs magiques, comme c'est impeccable. Mais non, je souffre encore plus.
Voilà, lui, il le reconnaissait, hein. Il dessinait des filles parce que c'est ce qu'il aimait regarder, tant qu'être sur sa planche à dessin toute la journée, il préférait dessiner des bombasses.
Ça a le mérite d'être honnête,
et clairement, s'il avait voulu nous dire qu'il faisait un truc philosophique ou ésotérique, on ne l'aurait pas cru. Donc voilà, donc il a fait ça, et c'est bien pour lui, mais ça n'a vraiment aucun intérêt.
Bah, bizarrement, ça tombe au moment où des rumeurs arrivent, comme quoi Darkchild sera adapté par un grand cinéaste du cinéma d'horreur,
oui.
Il s'appelle John Carpenter, donc on a pour plus de précision.
On a vu quand même les morceaux qu'il avait tourné lui-même avant, essayer de le vendre. Là, je pense qu'il est vraiment en train de faire pression, là.
Exactement, donc c'est un peu une sortie opportuniste, on va dire. Donc, voilà.
Alors.
C'est du caca des gommes des années 90, on en chier beaucoup, donc. Voilà, ça mérite sa place, toute sa place dans la dépresse.
Moi, ma dépresse à moi, elle serait limite de mauvaise foi si je savais manier ce genre de choses.
Ça serait étonnant.
Ce serait de mauvaise foi parce que je vais râler sur un truc qui sort. Alors que finalement, d'habitude, quand je parle des pilotes season, c'est pour râler qu'ils en lancent alors qu'ils n'ont pas sorti des séries. Et là, ça y est, ils nous sortent Twilight Guardian.
Ouais, donc, cool.
Donc Troy Hickman sur cette mini-série. Alors mini-série, hein, déjà on se demande pourquoi en faire une série. Le concept de Twilight Guardian, vous avez tous vu la saison... Alors c'est la saison 2 de Heroes. Dans la saison 2 de Heroes, on a la nièce de Nikki là, qui se trimballe avec son survêtement et qui essaye de jouer la justicière. Tu as vu ça ?
Non, Heroes, moi, j'ai pas dépassé le 8e épisode de la première saison.
Ah ouais, quand même, t'as vu la meilleure partie en même temps. et donc, ce personnage... Alors, elle avait des pouvoirs de caméléon, elle apprenait tout, tout ce qu'elle voyait à la télé, elle le reproduisait. Là, on a à peu près le même concept, le même look de personnage. Donc, c'est-à-dire qu'elle porte un masque et puis son survêtement avec la capuche-chemise. Mais elle n'a aucun pouvoir. Et donc, elle va patrouiller de nuit. Elle nous tient son War Journal. Sauf que, évidemment, elle n'a absolument rien à sauver, puisqu'elle est juste dans une banlieue tranquille, et que la seule chose qu'elle peut à peu près sauver, et d'ailleurs c'est la seule chose qu'elle sauve, c'est un chat dans un arbre.
Oui.
Donc voilà, elle veut jouer, juste jouer les super-héroïnes, mais elle n'a rien à faire, et ben voilà, elle patrouille dans le vide, et de ça on nous a fait une série limitée. Je suis assez sceptique personnellement.
Effectivement, oui, c'est faire une série, oui.
En plus, Topco nous avait sorti un TPB il y a quelques semaines avec les numéros 1 des nouvelles séries à sortir. Pour 5$, on avait donc 6 nouvelles séries. Alors, j'ai pas eu le temps de lire les 6. Hein. J'en ai déjà lu 4 sur 6.
C'est pas mal.
Voilà. Et il y avait des choses intéressantes dedans. Et il y en a des qui sont très surréalistes. Et donc il y avait notamment l'autre pilote season qui a gagné en même temps, qui était Genius, donc qui était un concept qui à mon avis n'était pas beaucoup plus porteur, mais voilà, donc c'est assez étonnant. En plus, juste quand même pour revenir sur Twilight Garden, c'était Reza le gagnant du one shot. Comme il est parti bosser chez DC sur Thunder Agents, il sera non, c'est je confonds, c'est pas Reza sur Thunder Agents. Enfin, il est parti ailleurs, il sera pas disponible. Et c'est Siddharth Kotian qui va le remplacer.
Très connu.
Voilà. Donc, dans ce TPB, on avait Genius, l'autre gagnant, qui arrivera évidemment aussi en série limitée. On avait Sunset, une série par Christos Gage et George Lucas, qui là est très belle, fonctionne très bien. Et après avoir lu le numéro 1, je pense que je vais la faire. Mysterious Way, c'était du Jason Rubin et Tyler Kirkham. Avec ça le réglait à l'ancrage. Ça c'est très moche et j'ai eu du mal vraiment à avoir un intérêt. Je n'ai toujours pas lu le Black Vault de Beckley Moore et Nelson Black. Par contre, j'ai beaucoup apprécié Echoes, donc, dont le numéro 2 sort dans ce Previews. Donc vous avez encore moyen peut-être de commander le 1. Ou si vous avez la possibilité de trouver le TPB, de commander directement à partir du 2. Puisque moi c'est ce que je ferais. J'ai du coup pas besoin d'acheter le 1. Parce que pour 5$, j'ai quand même économisé de 6x3. Et il y a une autre série qui s'appelle Last Mortal de John Mahoney et Philippe Sablik. Alors comme Echo, ça sort dans chez Minotaur, le label adulte qui revient, et ça a l'air sympathique, c'est très beau. Au dessin, je ne suis pas forcément tout emballé. Par contre, Sunset et Echoes, je vous les conseille. C'est des séries dont on reparlera, parce que c'est vraiment très bon à mon goût. Voilà. Donc pour image, c'est tout ce que j'avais remarqué. J'ai quand même un truc chez Dark Horse aussi. Et décidément, je vais encore faire un truc sur les trucs qui sortent pas.
C'est vraiment
le revue
des
presse-comics,
des absents.
Ah ouais, c'est comme chez Rookie, il parle que des absents au départ. Et moi, je vais vous parler de Falling Skies, qui est un webcomics qui sort directement sur leur site. Donc, on n'a que 4 pages hein, pour l'instant de sortie. Le premier chapitre, ça va ressortir au fur et à mesure, ça vient d'être lancé. Alors, pourquoi donc, c'est lié à une série télé qui va sortir, mais surtout, c'est dessiné par Juan Ferreira. J'aime beaucoup Juan Ferreira, je l'ai déjà dit, je le répète et je le redirai encore, et je trouve ça juste dommage de lui faire faire des planches aussi magnifiques et de le cantonner à nous faire un webcomics. Donc de toute façon, on le reverra parce qu'il bosse surtout en franco-belge actuellement, donc il a 4 albums, 3 albums je crois en préparation, mais là en tout cas... C'est un webcomic, ça permet d'attendre. On ne l'avait pas revu depuis l'arrêt de Rex Mundi. Donc voilà, 4 pages de Juan Ferreira pour l'instant. Plus à venir. Jetez un coup d'œil hein, régulièrement sur les webcomics de Dark Horse. Il y avait notamment le deuxième webcomics sur Brother Matthew, donc dérivé de la série Rex Mundi, dont on a parlé fin août, et dont le deuxième tome vient de sortir. Voilà, donc c'était pour Image et Dark Horse. Il nous reste les indépendants. Il y a des choses qui t'ont fâché chez les indépendants ?
Mais écoute, non, pas spécialement.
Alors moi, il y a une chose qui m'a fâché. On ne peut plus compter sur personne. Parce que j'ai été voir Blue Water, disant, j'ai trouvé mon Obama de la semaine. J'ai au moins ça à mettre.
C'est l'adresse, voilà.
Ça, c'est... Eh ben
l'adresse
non.
Des gourmets.
Voilà. L'adresse des gourmets. Et là, rien. Rien, pas un politicien chez Blue Water. Ça fait plus de deux ans que ce n'était pas arrivé. Bon, il y a des biographies, hein. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'Angelina Jolie et Beyoncé ?
Ah, hein? Bon, bah, moi j'aurais bien des idées, mais...
Ah ouais, bon, je sais pas, tu m'expliqueras plus tard.
donc,
tu sais dessiner, toi. On va rigoler, tiens. Donc, Beyoncé, c'est dans la série Fame, parce qu'il paraît qu'elle est faible, elle est célèbre. Et Angelina Jolie dans Female First. Voilà, donc deux biographies toutes pourrites. Enfin, je dis ça en même temps, je les ai pas lues, donc c'est un peu mesquin.
Oui,
mais des, voilà, des biographies de Blue
Water. C'est une présomption assez concordante généralement.
Voilà. Et donc, pour retrouver le Obama la semaine, il a fallu que j'aille voir ailleurs. Et là, on peut compter sur les vieux de la vieille, les bons vieux éditeurs, ceux qui ont déjà des séries au numéro 617.
Chez les indépendants, il n'y en a pas beaucoup, effectivement.
Ah bah, je crois qu'il n'y en a qu'un.
Oui, donc nous parlerais-tu donc des Archie Comics et de toute la...
Eh oui, parce que c'est de Archie Comics 617 dont je vais vous parler, puisque c'est la deuxième partie d'un arc basé sur les campagnes électorales. Et Archie s'offre le luxe de poser en couverture, accompagné d'un certain Barack Obama et d'une certaine Palin. Je suis en train de chercher son prénom.
Sarah
Palin, voilà. Donc, tous les trois en couverture, parce qu'ils sont venus faire un show à Rivendell, donc le lycée d'Archie. C'est type magnifique.
Ah bah ça, hein.
Voilà. Donc,
et Barack Obama et Sarah Palin dans le style du dessin des Archie Comics, ça va avoir le détour.
Ouais, ouais, bah écoute, on regarde déjà la couverture, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en regarder beaucoup plus. De toute façon, le preview d'Archie, les previews donc, d'Archie Comics, comme de tous les autres éditeurs dont on a parlé, sont trouvables sur la page Facebook du site Aleph.